Lundi 15 mai 2017, dans le cadre de Classique au détail, Yves Le Pestipon commentait dans un premier temps l'œuvre de Guez de Balzac, Christus Nascens, en introduction à l'ouvrage collectif Pierre de Fermat, L'énigmatique, dirigé par Marielle Mourange et paru aux éditions Midi Pyrénéennes.
Voilà, on va commencer aujourd'hui cette énième édition des Classiques au détail, un peu particulière, puisque d'abord elle commence à 17h et non pas à 17h30 comme d'habitude. Ensuite, parce qu'elle sera suivie d'un deuxième temps, qui est la présentation d'un livre collectif auquel j'ai participé, mais il y aura tout à l'heure les autres auteurs qui sont des universitaires pour l'essentiel, qui est donc consacré à Pierre de Fermat. Et donc ce Classique au détail, on a eu l'idée de l'ajouter avec Christian Torel pour introduire éventuellement à la suite qui sera la présentation du livre Pierre de Fermat. On reviendra sur nos Classiques au détail habituels dans 15 jours à peu près avec un texte de Blaise Pascal sur le thème de la passion. Donc de nouveau un texte catholique, là on va être dans le catholicisme total, parce que le prochain Classique au détail qui sera quelque chose comme le 28 mai me semble-t-il, fera partie aussi de Passe ton bac d'abord, c'est-à-dire la mise en scène, enfin l'exécution, si on peut dire exécution, de la passion selon saint Matthieu de Bach par Michel Brun quelques jours après, c'est-à-dire le dimanche 4 ou 5 juin, quelque chose comme ça. Et donc dans la semaine qui va précéder, on va faire un certain nombre d'actions autour de l'explication du thème de saint Matthieu ici. Ici, au vieux temple d'Henri Paragaminière, il y aura une soirée de théologie avec moi et quelques pasteurs. Et puis ensuite, dans la Passion selon saint Matthieu, on fera un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, cette semaine, la semaine-là, c'est-à-dire, je crois, le 1er juin, me semble-t-il, il y aura encore un autre événement important dont on reparlera, puisqu'on sortira complètement de la littérature du 7e siècle en allant du côté de Christophe Tarkos, une soirée un peu exceptionnelle qui va s'appeler Cabaret Tarkos, je ne sais plus très bien le titre exact, qui sera donc autour d'un grand poète contemporain, mort, hein, voilà, sur lequel il y aura deux temps. Il y aura un temps de présentation de son livre qui s'appelle Enregistré et ensuite un spectacle. Donc c'est à l'intérieur de cette série Fermat qu'aujourd'hui j'ai pensé parler d'un texte en latin, de deux textes en latin même. Donc c'est un classique au détail très spécial, puisqu'en effet, au lieu de faire comme d'habitude des textes en français, on va aujourd'hui rencontrer un peu de latin. Rassurez-vous, on ne va pas vous embêter à faire des pages et des pages de latin, mais tout de même vous avez devant vous en principe 4 pages de vers latin plus une page de traduction, donc vous avez la dose en principe de latin devant vous, hein, du latin du 17e siècle, et voilà. Et donc effectivement, j'ai intitulé cette soirée Balzac Fermat. Parce qu'en effet, on va parler surtout dans cette première partie d'un auteur qui s'appelle Balzac, mais qui n'est pas le Balzac que l'on connaît en général, qui est le Balzac du XVIIe siècle, hein, on va dire. Et on va essayer d'expliquer un petit peu un texte de Balzac et les raisons pour lesquelles Balzac et Fermat ont des rapports, et on va voir lesquels. Hein, voilà. Alors, s'il y a au XVIIe siècle un type qui s'appelle Balzac, qui s'appelle en fait Guez de Balzac, hein, Guez de Balzac, c'est un type qui a eu une très grande célébrité, très très grande célébrité européenne au XVIIe siècle, mais il n'a pas eu de chance quelque part, parce qu'un jour est survenu un certain Balzac, Honoré de Balzac, qui a éclipsé complètement dans l'histoire de la littérature française le nom de Balzac, du Balzac du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, quand on dit Balzac, et on dit régulièrement Balzac, il y a des débats autour de Balzac, c'est toujours de Guez de Balzac qu'il s'agit, et évidemment, certainement pas de Honoré de Balzac qui est là. Il y a donc deux Balzac dans la littérature française, donc le Balzac du XIXe siècle, l'auteur de la Comédie humaine, et le Balzac du XVIIe siècle. Ils ont d'ailleurs une particularité, c'est qu'aucun des deux ne s'appelle vraiment tout à fait Balzac. Le Balzac du XVIIe siècle s'appelait en fait Balsan, Balsa, cela dépend. Son père était des environs de Carmaux, par là, et son père s'était enrichi au moment de la Révolution française. Il avait trouvé malin de se faire appeler Balzac, avec le Z de Zorro, parce qu'effectivement, ce Z fait plus viril, hein, bien entendu, il y a un livre entier de Roland Barthes qui s'appelle SZ, qui est consacré au passage du S de Balsa, qui est un nom occitan, au Z de Balzac, et de se faire anoblir, parce que, en effet, comme pour Giscard et autres, évidemment, le fait d'avoir un nom de noble, c'est pas mal. Mais le fils, c'est-à-dire Honoré, s'est senti très honoré de porter ce prénom, ce nom Balzac, et ce prénom Honoré, parce qu'il renvoyait aussi, ce que ne savait pas, ou en tout cas n'intéressait guère le père, à Gaze de Balzac, qui quant à lui aurait dû s'appeler Gaze, c'est-à-dire G-U-E-Z, parce que son père s'appelait Gaze, mais son père possédait une propriété à côté d'Angoulême, qui s'appelait Balzac, et donc le papa s'est fait anoblir tranquillement, il était assez riche, il s'est fait appeler Gaze de Balzac, et du coup, voilà, tout le monde s'appelle Balzac, alors que bon, les droits de s'appeler Balzac sont assez limités pour l'un comme pour l'autre. On va voir tout à l'heure avec Pierre Fermat, qui s'appelle parfois Pierre de Fermat ou Pierre de Fermat selon les noms, que ces problèmes d'avoir un nom, avoir un nom avec une particule, sont des problèmes récurrents dans l'histoire de la littérature et de la politique française, on va dire jusqu'à Giscard d'Estaing inclus, qui tient beaucoup à sa particule. Alors, ce Gaze de Balzac, il n'est pas excessivement connu. Sauf que tout le monde connaît le nom de Balzac et que parfois on reproche, on croit que c'est le même, peut-être un petit peu. Il est un peu connu à Angoulême parce qu'il est d'Angoulême, parce qu'à Angoulême, le lycée s'appelle le lycée Gaze de Balzac. Et donc, les gens qui habitent à Angoulême, en général, savent, dans la ville de la bande dessinée, qu'il y a un type qui s'est appelé, en effet, Gaze de Balzac. Si je regarde dans les manuels de littérature française, donc les grands classiques de littérature française, il y a deux possibilités. Ou bien il n'y est pas. Il n'y a pas de nom. En plus, c'est embêté parce que parfois, vous cherchez à Gaze, parfois à Balzac. C'est un peu pénible, ça. Et donc, dans Le Regard des Michards, il y est. Dans Thiers, qui est là, il y est. Dans Le Darkos Tartare, grand manuel de littérature française fait par celui qui a été ensuite ministre de l'Éducation nationale, il n'y est pas. Mais quand il y est, il y a une page consacrée à Gaze de Balzac, une simple page. On ne dépasse pas la page. Et dans cette page, on montre en général une lettre de Gaze de Balzac. Voilà. Donc, c'est un auteur très célèbre, extrêmement célèbre, on va y revenir au XVIIe siècle, qui a disparu de la conscience commune et qui a pratiquement disparu de la conscience, on va dire, collective. Si je me promène dans la librairie Ombre Blanche à la recherche du Gaze de Balzac, mais dans n'importe quelle autre librairie française, ce sont des ultra spécialisées librairies qui produisent, qui vendent des livres des éditions Champion à 70 ou 80 euros le volume et qu'on ne trouve en général que dans la bibliothèque universitaire, on ne trouve qu'un seul livre de Gaze de Balzac, Le Prince, au milieu des milliers et des milliers de livres. Alors ce n'est pas la faute à Christian Thorel, il n'est pas coupable, hein, on peut tout lui reprocher, mais il ne sacrifie pas Gaze de Balzac parce qu'en effet, le seul livre disponible en dehors des éditions ultra-universitaires et ultra-chères de Gaze de Balzac, c'est ce livre qui s'appelle Le Prince de Balzac, de Gaze de Balzac, qui porte donc le même titre, on y reviendra, qu'un livre de Machiavel qui s'appelle aussi Le Prince, mais de Machiavel, fort connu au XVIIe siècle et lu encore aujourd'hui. Donc un seul livre d'un des plus fameux auteurs du XVIIe siècle, dans cette grande librairie de Toulouse, mais dans la meilleure librairie de Bordeaux ou de Lille ou autre, on ne trouverait certainement qu'un seul livre aussi. Par-ci, par-là, si on va chez des bouquinistes, on peut trouver quelques éditions du XIXe siècle, de rééditions de lettres de Balzac et de quelques autres textes, mais finalement extrêmement peu. Donc il y a un nom extrêmement célèbre, un nom voilé par Balzac honoré, et puis un personnage qui est là peu connu. Alors Balzac Honoré se souvenait très bien de Gaze de Balzac, parce que un des plus grands livres de d'Honoré de Balzac s'appelle Les Illusions perdues. Les Illusions perdues, c'est un livre dans lequel on raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Lucien de Rubempré, qui est natif d'Angoulême, qui est originaire d'Angoulême, où il travaille au début du roman dans une imprimerie. Alors bon, évidemment, il s'ennuie un peu, Angoulême et autres. Il fait quant à lui de la poésie et il va, au bout du compte, monter à Paris avec ses poèmes, pour essayer de réussir. Et donc il va, on va dire, dans un premier temps réussir, et puis en effet, progressivement, illusion perdue, il va découvrir ce que c'est que la vérité de la vie parisienne, l'horreur de la vie parisienne, les femmes, la pourriture politique, etc. Bon, ça n'a pas changé, c'était peut-être pire à l'époque. Et donc, illusion perdue, l'histoire d'un homme d'Angoulême qui monte à Paris et qui va s'intégrer, effectivement, dans la vie parisienne, jusqu'à trouver ça un petit peu abominable. Évidemment, c'est l'histoire comme renversée, on va le voir, de Gaze de Balzac. Gaze de Balzac, c'est un homme d'Angoulême qui va monter à Paris, en effet, en passant par Rome, on va raconter un petit peu une histoire, mais qui va revenir à Angoulême, et à Angoulême, il va être le solitaire, l'ermite de la Charente, voilà le nom qu'on va lui donner en particulier, et d'Angoulême, en se retirant et en disant le plus grand mal possible de Paris, mais en temps extrêmement lié au Salon des Précieuses et surtout au Salon de Madame de Rambouillet, il va décrire, enfin il va être en relation avec l'Europe entière et avec Descartes et, on va dire, post-mortem avec Fermat. Alors, quel est le lien avec Fermat? Le lien avec Fermat est très étonnant. Il est peu connu et pourtant il est en quelque manière ostensible. Alors, ce soir, à Librairie Ombre Blanche, événement important, j'ai amené Fermat tout entier. Alors, Fermat tout entier, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà Fermat. Ce n'est rien d'autre que cela. Voilà. Donc, ceci est un ouvrage qui vient de la bibliothèque de l'Académie des sciences, lettres, inscriptions et médailles de Toulouse, que je suis allé voler tout à l'heure, assez rapidement, et que d'ailleurs j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, au milieu des cartons, dans la poussière de cette académie que je dirige par ailleurs. Évidemment, on m'avait garanti un mois plus tôt qu'il n'y avait rien dans cette bibliothèque de Fermat, mais en effet, il suffit d'aller les poussières et on trouve tout dans cette bibliothèque, y compris Fermat. Alors, Fermat n'a jamais publié quoi que ce fût. Quelques vers latins, 4 ou 5, à propos de Richelieu, une petite inscription, rien du tout. Pour le reste, il pratiquait méthodiquement, on va dire, la formule de Descartes, qui est l'arvatus pro deo. On commence à faire un peu de latin. L'arvatus pro deo, en latin, ça veut dire « je m'avance », non pas larvé, mais masqué. Hein, je m'avance masqué. Donc, je ne montre pas grand-chose. Bon, Descartes n'est pas allé au bout de son affaire, puisque donc il a publié un certain nombre de livres avec une audace assez considérable. Descartes était ainsi. Mais Fermat, qui a passé sa vie, en gros, entre Toulouse, Beaumont-de-Lomagne et Castres, il est mort à Castres tout à l'heure. Les gens qui seront là en reparleront un petit peu. Il s'occupait de la chambre de l'édit, c'est-à-dire d'un tribunal entre catholiques et protestants à Castres. Fermat a vécu sa vie, disons, d'homme de loi toulousain, de parlementaire, en faisant des poèmes, quant à lui. On nous explique dans le Journal des Savants qu'il écrivait beaucoup de textes en latin, en écrivant des lettres à tout un tas de gens très célèbres à l'époque, dans l'Europe entière, en particulier en passant par le père qui s'appelle Marin Mersenne, dont on reparlera tout à l'heure, et en faisant, quant à lui, des mathématiques, sans avoir fait jamais à Pierre de Fermat, au lycée à côté, qui ne portait pas son nom, qui à l'époque était un collège, sans avoir jamais fait, il a été élève hein, de ce qui s'appelle maintenant le lycée Pierre de Fermat, sans avoir jamais fait de grandes mathématiques, c'était, on va dire, un amateur excessivement doué en mathématiques, un homme privé, qui faisait des mathématiques avec ses copains, qui étaient des gens de Paris, qui étaient des gens d'Europe entière, par lettres, qui étaient des gens comme Pascal, qui étaient des gens comme Descartes, mais quant à lui, sans jamais ou quasiment jamais sortir de Toulouse, sauf pour aller à Castres, sauf pour aller à Beaumont-de-Lomagne, peut-être à Bordeaux, enfin même assez sûrement à Bordeaux, certainement pas à Paris. À la fin de sa vie, il fait une proposition à Pascal de le rencontrer entre Clermont-Ferrand et Toulouse, mais Pascal décline l'offre et au bout du compte, il n'y a pas de rencontre. Donc Fermat fait des mathématiques et quand il meurt au début des années 1660, en 1665, il n'y a pas d'œuvre de Fermat. Il y a des textes qui sont écrits. Alors heureusement, il a un fils qui s'appelle Samuel. Et Samuel est lui-même un homme de loi toulousain, un homme assez puissant, assez riche certainement. Les Fermat sont une famille tout à fait importante, hein, du coin. À ce moment-là, ils ont des propriétés agricoles, etc. Hein, ce sont des parlementaires, ils ont de l'argent, de Beaumont-de-Lomagne surtout. Et donc, le fils décide de publier les œuvres de son père. Bon, il y avait deux possibilités. Ou bien, quand on avait un aristocrate, on faisait les mémoires après la mort du personnage. On les faisait faire par un écrivain plus ou moins local. Par exemple, Montmorency, quand il est décapité, il n'a pas eu le temps d'écrire sa mémoire. Donc, il se trouve quelqu'un pour écrire les mémoires de Montmorency après sa mort. Donc, c'est normal, la famille fait faire le statut de gloire. Ou bien, effectivement, la famille, quand il s'agit d'un intellectuel comme Fermat, et là, c'est le cas, l'œuvre de Samuel, décide de publier l'ensemble de ce qu'ils ont et qu'ils jugent digne d'être publié à la gloire du père. Alors donc, ça donne deux livres qui sont reliés ensemble dans cette édition, disons, reliés au XVIIIe siècle, deux livres dont l'un est immensément célèbre, mais qui ne nous concernera pas vraiment aujourd'hui beaucoup, et un deuxième qui l'est un peu moins, mais qui va nous concerner beaucoup. Le livre immensément célèbre, ça s'appelle « L'arithmétique de Diophante ». Alors pourquoi c'est immensément célèbre? Personne ne connaît trop, à part les mathématiciens, l'arithmétique de Diophante, c'est un livre de mathématiques de l'Antiquité, mais il se trouve que dans l'arithmétique de Diophante, livre que possédait Pierre de Fermat, il avait écrit dans une des marges, paraît-il, et ça se trouve dans ce livre, il avait écrit dans une de ses marges un théorème qui s'appelle le théorème de la somme des cubes, qui dit que A puissance N plus B puissance N égale C puissance N n'a pas de solution entière, sauf dans le cas de A carré plus B carré égale C carré. Bon, je ne vous fais pas la démonstration de ce cas particulier. La démonstration générale, je suis incapable de la faire. Et de toute façon, celui qui l'a démontré récemment, Andrew Wiles, il faut 4 jours pour faire la démonstration. Et donc, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ce théorème a l'air simple, mais ce théorème a rendu Fermat immensément célèbre, simplement. On n'a jamais vu le texte de Fermat qui atteste qu'il a écrit ce théorème. Ce théorème est juste reproduit dans la reproduction, en quelque manière, qu'a fait le fils Samuel Fermat en 1670 de l'arithmétique de Diophante, et il a effectivement écrit que son père, mais personne ne sait si c'est vrai, avait dit qu'il avait trouvé ce théorème et qu'il avait trouvé une démonstration mirabilem, magnifique, telle qu'il ne pouvait pas la mettre, mais si courte, que quand même il fallait un petit peu d'espace, mais telle que l'exiguïté de la marge ne permettait pas de le montrer. Alors, je vais vous montrer le théorème de Fermat, parce que c'est un peu comme à la messe, hein, vous allez voir, c'est la seule fois dans notre vie que vous verrez le théorème de Fermat, et ensuite je reviendrai au latin. Il est donc à la page 61 de Diophante, et donc comme à la messe, vous pourrez faire effectivement ce texte qui s'appelle « Quede Deo, cède à Dieu », et voilà. Ce livre, maintenant pour le situer encore un petit peu plus, bon, c'est un livre que Samuel Fermat a fait, c'est deux livres, hein, puisqu'il y en a un de 1670 et un de 1679, il les a fait à ses frais, avec des libraires toulousains, des imprimeurs libraires. Le livre qui s'appelle « Les œuvres complètes de Pierre de Fermat », il l'a fait avec un type qui s'appelle Jean Pêche, qui était l'imprimeur libraire des états du pays de Foix. Hein, vous savez que vous aviez des états dans la région de Foix. Donc c'est un type qui travaillait en fait pour les catholiques et pour les jésuites. Et le deuxième, il l'a fait avec un certain Bernard Boss, qui était, pareil, imprimeur typographe des milieux très catholiques de l'époque, donc dans ce moment-là, et il habitait dans le Wico Porta Arietis, c'est-à-dire dans le chemin de la Porte du Bélier. La Porte du Bélier, c'est la porte qui se trouvait sous la place du Capitole, hein, c'est la Porte du Bélier, dans cette direction qui est là véritablement. Donc on sait les gens, on sait à peu près combien ça vaut coûter ce genre de fabrication de livres, on a une petite idée, donc c'est un investissement de famille qui est important. Pourtant, la gravure, les gravures, parce qu'il y en a plusieurs en réalité, les figures mathématiques qui sont là, l'ensemble des œuvres choisies de Pierre de Fermat, donc des lettres, des textes mathématiques, mais il y en a peut-être d'autres. Mais en fait, on n'en a pratiquement rien d'autre, c'est-à-dire qu'il reste extrêmement peu de textes manuscrits de Pierre de Fermat, donc la totalité de l'œuvre de Fermat, ou la quasi-totalité, est là-dedans. Et donc on peut dire que l'œuvre de Fermat, c'est une invention de son fils, qui a fabriqué quelque chose à partir de dossiers qu'il avait, de textes qu'il avait. Il a dû mettre à la poubelle les choses, il en a gardé et d'autres. Par exemple, dans le journal des savants, au moment de la mort de Pierre de Fermat, on nous dit qu'il a fait beaucoup de poèmes latins. Eh bien, le fils en a choisi un et un seul, ce poème, Quede Deo, à effectivement Balzac. Donc, il y a à réfléchir un petit peu pourquoi il met un texte latin à la fin des œuvres mathématiques, pourquoi il met ce poème latin et pourquoi finalement le dernier mot des œuvres de Fermat, c'est finalement Balzac. Hein, si je vous amène à lire un petit peu le texte latin, donc il y a le texte latin de Fermat que je vais distribuer qui doit être dans les feuilles et vous allez voir tout à fait à la fin de cette page, il y a écrit Pierre Fermat, La vie active, et il y a écrit Georges Soubeil, qui est un universitaire toulousain qui a contribué à la publication sur ce livre qui s'appelait Pierre de Fermat, qui n'est pas l'énigmatique. À la fin, les derniers mots du livre de Fermat, c'est donc Balzaco proles non inficiendea parenti, enfant pour Balzac qui ne doit pas être méprisé en réalité. Et donc c'est Fermat qui se désigne lui-même comme un enfant de Balzac, hein, véritablement, voilà, de Balzac. Et donc c'est assez étrange, donc Fermat se définit comme un enfant de Balzac, c'est-à-dire de Gueuse de Balzac, et un peu plus haut dans le poème, au vers 8 ou 10, vous retrouvez effectivement Balzaco praeucunte uiae, au vers 10 du Quede Deo, et donc vous avez deux fois le nom de Balzac, dont il n'y a pas de doute, c'est un poème à Balzac, et Fermat se définit comme un fils de Balzac. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type, Balzac? Et d'où ça vient, cette histoire-là, de se dire « je suis le fils de Balzac » et pourquoi ce poème ? Enfin, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, qui est ce type vraiment qui s'appelle Balzac, hein, Gueuse de Balzac ? Donc, on a dit une chose, simplement, donc c'est un type qui s'appelle Gueuse, enfin, dont le père s'appelle Gueuse, qui naît à Angoulême, dont le père possède la propriété de Balzac, qui est juste à côté d'Angoulême. Il y a toujours un lieu qui s'appelle Balzac. Et donc, voilà quelqu'un qui est assez particulier. Alors, il naît en 1597 et il meurt en 1654. Donc, c'est quelqu'un qui est à peu près de la même zone chronologique que Fermat. Hein. Fermat, on ne sait pas très bien quand il naît. Bon, il y a deux dates qui sont données. Enfin, il naît au début du XVIIe siècle. Il y a une hésitation sur le nom d'un enfant de ses parents, très bien, et il meurt en 1665, donc Fermat meurt 11 ans après Balzac, mais bon, à 10 ans près, on est à peu près dans la même zone de génération. Donc ce sont des gens dont une bonne partie la quasi-totalité pour Balzac de la vie se passe sous le règne de Louis XIII, puis pour Fermat, il a le début du règne de Louis XIV, et il naît à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, à l'époque de Henri IV, voilà à peu près. Donc ce sont des gens, disons, du premier XVIIe siècle, qui, pour Fermat, dépassent un peu le premier XVIIe siècle, puisqu'il vit une dizaine d'années après. Donc c'est des gens qui auraient pu se rencontrer, certainement, et qui probablement ne se sont pas rencontrés, quand bien même, bon, on va voir qu'ils sont quand même d'une espèce de grand sud-ouest de la France, Angoulême et Toulouse. Il y a toutes sortes de raisons de penser qu'ils ne se sont pas rencontrés. Alors, qui est Guès de Balzac? Donc, il appartient à ces familles, comme il y en a beaucoup au XVIIe siècle, qui sont des familles bourgeoises, enrichies, et qui se donnent pour... C'est à peu près l'essentiel des familles qui deviennent des intellectuels, hein, qui deviennent des gens qui vont ensuite compter dans la littérature, dans la peinture, dans les sciences et autres. C'est la même chose pour Fermat, c'est la même chose pour La Fontaine, c'est la même chose pour Corneille ou autre. Tous ces gens-là sont des gens qui appartiennent à un milieu souvent parlementaire, bourgeois, qui sont en train de... leurs parents ont commencé à s'enrichir et ils sont en train de s'annoblir. C'est eux qui vont s'annoblir ou c'est leurs parents qui les ennoblissent. Et ils ont un tropisme d'aider, au fond, le pouvoir royal centralisé, mais cependant une hésitation. Parce qu'en effet, au XVIIe siècle, après les guerres de religion, vous savez qui occupent l'essentiel de la fin du XVIIe, du XVIe siècle, une série de rois de France, et en particulier donc Henri IV, puis Louis XIII avec Richelieu, et puis Louis XIV, vont essayer de construire, effectivement, un État français, dont nous a parlé Christian Lavielle l'autre jour à l'hôtel de la César, à propos des questions de la laïcité, un État centré, à peu près centralisé, normé, avec des routes qui fonctionne à peu près, un système juridique qui fonctionne à peu près, une administration qui fonctionne à peu près. Et ils avaient comme ennemis, plusieurs sortes d'ennemis, hein. D'une part, une partie du peuple toujours prêt à se révolter, les croquants, mais c'était pas trop grave parce que les croquants, on les branche, on les pend, on les torture, etc. Bon, c'est pas si grave que ça. Plus embêtant, les grands. Bien entendu, les grands qui se révoltent parce que les grands rêvent d'un moment un peu utopique, peut-être médiéval, dans lequel les grands, les seigneurs régnaient sur des principautés, sur des comtés, sur des marquisats et autres. Et donc à Toulouse, on a une marque de cela avec la décapitation du duc de Montmorency, donc place de ce qui est maintenant la place du Capitole, donc dans la cour du Capitole, et donc est une action de Richelieu et de Louis XIII, au bout du compte, pour rétablir l'ordre face à ces grands-là. Et puis il y avait d'autres ennemis potentiels, en tout cas des gens qui étaient éventuellement redoutables, qui étaient les différentes formes de l'Église. Et avec ces tendances différentes à l'intérieur de l'Église, comment s'imposer de l'Église et des religions, et de la religion réformée en dehors de cela. Et donc, il y a un effort qui est fait, disons, des rois, de leurs ministres, Richelieu, Colbert, quelques autres, Sully, pour organiser un État, disons, centralisé le plus possible. Pour des gens comme Fermat, pour des gens comme la famille de La Fontaine, pour des gens comme la famille de Corneille ou autre, il y a au fond deux choix qui se présentent. Ils vont, en général, quand ils vont réussir, prendre une des deux branches. La première branche consiste à se dire, je vais essayer d'aller du côté des grands, qui vont devenir les gens qui vont faire la fronde, par exemple au moment de 1640 et des poussières. Donc les grands, ce sont ces gens qui disent, bon, suivez-nous, nous on est des grands, évidemment, on est des gens, des princes du sang, mais nous on est attention, disons, aux régions, on est partisans de diversité, diverses et variées, etc. Et on est contre l'État, on va dire, central, normé, monstre froid, enfin, j'emploie des expressions un peu du XXe siècle à dessein. On est quelque part du côté du chaud, de la chaleur, de la gloire, de la force, etc. Hein, et puis en même temps, on est finalement un peu proche de vous parce que nous sommes les seigneurs de ceci ou de cela. Donc premier choix, aller du côté des grands. Deuxième choix, effectivement, aller du côté de la famille royale, du pouvoir. Ce qui était à certains égards moins exaltant, mais qui à terme était prometteur. Une des erreurs de La Fontaine, à un certain moment, c'est de croire qu'il peut faire confiance à Nicolas Fouquet, qui n'est pas un grand exactement, mais qui est un ministre qui se veut autonome. Et il ne comprendra que trop tard, pour lui-même, qu'il faut aller côté du roi. Le roi, c'est Louis XIV. Racine comprendra plus vite. Molière comprendra plus vite. Et ils seront récompensés de cela. Voilà. Alors, Balzac est une de ces familles qui... aussi, hein, dans les années du début du XVIIe siècle, ce n'est pas du tout évident, quand il a environ 20 ans, c'est-à-dire vers 1620, est-ce qu'il faut faire le choix de la monarchie qui est en train de monter, c'est-à-dire Louis XIII à ce moment-là. Mais Louis XIII est un roi faible, c'est un roi jeune. Il est un peu embêté par sa mère, on le sait bien. Il va falloir qu'il y aura plusieurs traités, en particulier un traité d'Angoulême, de réconciliation entre la mère et le fils. Puis ensuite, il va faire confiance à un grand ministre qui sera Richelieu. Mais est-ce qu'il faut faire confiance à ce roi qui va monter, qui est très catholique, qui essaie de corriger les erreurs à ses yeux de son père, Henri IV, en étant plus catholique que ça? Ou est-ce qu'il faut faire confiance aux grands en tout genre, qui sont tous des militaires, qui sont parfois des hommes d'église, qui sont souvent des hommes d'église, et aller de ce côté-là plutôt. Hein. Et quand on est d'Angoulême, ce n'est pas inintéressant de suivre effectivement les gens de la région, les seigneurs de la région. Et le seigneur de la région s'appelle le duc d'Épernon. Le duc d'Épernon, c'est un homme extrêmement puissant et un homme très intelligent et qui a envie de guerroyer un peu, hein, comme tout le monde, du côté de ses provinces pour se défier un petit peu du pouvoir royal. Et donc, lorsque Balzac arrive, disons, à la maturité, il fait des études, évidemment, à Angoulême, dans le collège local d'Angoulême, puis il se rend, en effet, à l'université de Leyde. À l'université de Leyde, c'est une des grandes universités de l'Europe du début du XVIIe siècle. Elle a été construite à la fin du XVIe siècle par Guillaume d'Orange, pour remercier la population de Leyde de sa résistance face aux Espagnols. Et c'est une très grande université du début du XVIIe siècle, et puis encore aujourd'hui, c'est une des grandes universités. Je crois qu'elle fait partie des 100 premières universités du monde, dans le classement de Shanghai. Bon, voilà, très bien. Et donc, le brave Guest de Balzac se rend à l'université de Leyde autour de 1612-1614, par là. Pour lui, c'est une chance, c'est pas mal. Bon, parce qu'il y a des grands professeurs, c'est un lieu d'ébullition intellectuelle. Enfin, au début du XVIIe siècle, les Provinces-Unies, la Hollande pour nous maintenant. Il va rencontrer un personnage très important, probablement deux d'ailleurs. L'un s'appelle, enfin, le jeu de côté, c'est professeur comme Heinsius, qui est un grand personnage. Il va rencontrer Théophile de Viau. Théophile de Viau est aussi, à ce moment-là, étudiant à Leyde. Vous savez, Théophile de Viau, c'est un des grands poètes du début du XVIIe siècle, qui va être accusé de libertinage à cause de ses œuvres, qui s'appelle le Parnasse satirique, enfin une de ses œuvres, à cause de ses poésies. En particulier, il sera accusé par un certain Pergaras. Il va se retrouver en prison. On voudra sa mort, mais il ne va pas mourir au bout du compte, directement de la prison, mais enfin indirectement de sa prison. Et donc, Théophile de Viau et Guest de Balzac se rencontrent à Leyde. Selon certains, mais qui sont sans doute pas tout à fait de mauvaise langue, ils deviennent des amants, parce qu'il est plus ou moins à peu près établi que Théophile est homosexuel, et aussi Guest de Balzac, là on en a vraiment sûr aussi, enfin véritablement, et donc là se crée une communauté intellectuelle, ça va rester dans la tête, dans le paysage de Guest de Balzac, libertine, c'est-à-dire défiant par rapport à l'Église, avec une particularité sexuelle difficile à publier au XVIIe siècle, mais en même temps, dans la provocation aristocratique, on peut le faire assez facilement, enfin voilà l'espèce de paysage. Donc il se forme à l'université de Leyde après le collège d'Angoulême. Et ensuite, donc, il va continuer son cheminement en se rendant à travers l'Europe à la suite de ce cardinal, de ce duc d'Épernon, donc qui est le seigneur et maître de la région d'Angoulême. Il va se promener jusqu'en Allemagne, il va aller prendre les eaux à Spa, et là, du côté de Metz, il va rencontrer des gens qui vont lui raconter un petit peu comment ça se passe à la cour, et il va être extrêmement impressionné par ce qui va être raconté dans ce qui se passe à la cour, c'est-à-dire aux cours, dans les cours où il y a du pouvoir, et il va tirer de cela un petit livre qui ne sera publié qu'après sa mort, qui est un livre merveilleux, qui s'appelle Aristippe. Alors, Aristippe, voilà une des éditions, c'est un des grands livres du XVIIe siècle. Voilà, je le ferai passer un petit peu. Ça s'appelle Aristippe de la cour par feu monsieur de Balzac, que Balzac a écrit vers l'âge de 18 ans, 20 ans peut-être, et puis qu'il a travaillé un peu toute sa vie, et qui est un texte magnifique qui est adressé à la sérénissime reine de Suède, Christine, sur lequel Didier Foucault, que je vois arriver, vient de faire un colloque la semaine dernière, auquel je n'ai pas pu assister, parce que malheureusement, mes étudiants m'ont retenu. Voilà, et donc, la reine de Suède, personnage extrêmement important du début du XVIIe siècle, et là, on voit l'importance de Guest de Balzac. Donc, il va consacrer, enfin, la particularité, il va consacrer sa vie à écrire et réécrire ce livre, Aristippe, que je vous laisse passer là, un peu entre les mains. C'est toujours agréable de regarder les livres du XVIIe siècle. Vous verrez comme ça, là, la photo, si on peut dire, de Guest de Balzac, enfin, tel qu'il s'auto-représente. Et donc, effectivement, c'est un texte qui vient de la jeunesse de Balzac et que Balzac va écrire, réécrire sans arrêt pour le publier à la fin de sa vie. Donc, c'est un écrivain Il rentre en ce sens dans la littérature véritablement, qui écrit, qui réécrit, qui réécrit, et l'essentiel de l'œuvre de Balzac va être publié en fait après la vie, après la mort de Balzac, donc dans les années qui nous intéressent, finalement dans les années Fermat. Hein, on reviendra un petit peu sur Fermat tout à l'heure. Et donc voilà un personnage qui va se promener un petit peu à l'Allemagne, et puis ensuite donc le duc d'Épernon a trois fils, dont l'un s'appelle le cardinal de la Valette. Donc toujours la famille d'Angoulême, et donc quand on est cardinal, évidemment une grande occupation, cardinal de la Valette qui est par ailleurs archevêque de Toulouse. Il est archevêque de Toulouse, je ne sais pas l'âge exact, depuis l'âge de 18 ans ou 16 ans. Hein, voilà. Il est abbé depuis 6 ans. Il a l'abbaye qui est à côté de vers Grenade, par là, de Belle-Perche. Je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, cette abbaye. Le nom, enfin, il ne reste plus que trois pierres. Donc, il est abbé à 6 ans à peu près et il est archevêque de Toulouse assez rapidement. C'est important de savoir que le cardinal de Valette est archevêque de Toulouse. Ça va relier encore avec les histoires de Fermat. Très bien. Et donc, cet archevêque de Toulouse, quand on est cardinal, évidemment, on séjourne largement à Rome. Vous savez, on intrigue pas mal, et le jeune de Guez de Balzac a un peu le même plan que Du Bellay, pas tout à fait un siècle avant, quand il part avec le cardinal Jean Du Bellay à Rome, dans l'espérance, vous comprenez, bon, de gagner de l'argent, de magouiller un petit peu, il y a beaucoup de prostituées, enfin, etc. Enfin, la vie est possible. Il se retrouve donc à Rome, ce très beau plan, Leyde, puis Rome, dans les années 1621-1623, et donc Rome, c'est un grand moment pour être à Rome. Il y a un livre magnifique pour ceux qui veulent lire un beau livre sur Rome qui s'appelle Rome 1630 de Yves Bonnefoy, le poète Yves Bonnefoy, le traducteur Yves Bonnefoy, l'historien, on peut dire, Yves Bonnefoy. Enfin, un magnifique livre sur Rome à ce moment de la contre-réforme, de la construction par les papes d'un certain nombre de très grandes choses. Et donc, Guez de Balzac va dans cette ville qui est en train de se reconstruire après les destructions du XVIe siècle, avec des papes magnifiques. Et donc, là, il y a énormément d'intelligence qui est là présente, énormément de culture. Bon, on le sait bien, pictural, musical, scientifique et tout ce que l'on veut. Et donc, le jeune Guez de Balzac se rend là, et là, et bon, en particulier, il découvre la Rome jésuite qui est en train de se construire un tout petit peu partout, et on va garder cette idée des jésuites, hein. Ils vont être un peu présents. C'est pas pour rien que les éditeurs de Fermat sont les éditeurs des jésuites, hein. Voilà, et que le poème qu'on va voir tout à l'heure est un poème en réalité jésuite. Et donc, Guez de Balzac circule à Rome, circule à Leyde. Donc, c'est en fait un Européen, hein, d'entrée de jeu. Le Nord, le Sud, Angoulême, voilà l'affaire. Mais tout de même, les choses se jouent de manière importante à Paris. Parce que, effectivement, Paris, c'est la ville qui, en France, est en train progressivement de devenir la capitale intellectuelle. Alors maintenant, progressivement, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, et surtout dans le premier XVIIe siècle, Paris n'a pas le même statut que le statut qu'il a acquis, disons, au 18e, au 19e et encore aujourd'hui. Quand je parle avec mes étudiants de deuxième ou de troisième année, leur seul souci, c'est d'aller à Paris. Dans un an, je suis à Paris, enfin Paris, et puis si possible, enfin, ensuite New York. Donc, il n'est de Bombay que de Paris, il n'est de vie intellectuelle en France qu'à Paris, et si on n'a pas vu sur le jardin du Luxembourg depuis la rue d'Ulm, bon, on est un pauvre péquenot. Bon, très bien, voilà à peu près. Cette idée-là, c'est construite progressivement. Hein, progressivement, c'était pas du tout l'idée de Rabelais, hein, c'était pas du tout l'idée de Ronsard essentiellement. Progressivement, cette idée s'est construite. On voit bien que quelqu'un comme Corneille, qui est un homme de Rouen, va progressivement tourner vers Paris, et que les grands penseurs du XVIIIe siècle, sauf pour des raisons de départ à cause des censures diverses et variées, ne vont avoir pour souci qu'être à Paris. Évidemment, parfois on fuit, on va faire des Voltaire, mais pour revenir à Paris, les grands romans du XIXe siècle nous racontent toujours, comme le fait Balzac, le cheminement de Angoulême vers Paris, ou de Besançon vers Paris, ou de Nogent vers Paris, enfin peu importe, on va à Paris, et puis pour Sartre, pour Céline, ou pour Tristan Garcia, mon ancien élève intellectuel, et etc. et autres, évidemment, il est à Paris, on ne peut pas être ailleurs qu'à Paris, si on va faire des romans de la philosophie, voilà cette idée. Pour Guez de Balzac, à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il est possible d'admettre qu'il y ait une vie intellectuelle très forte à Lyon, à Toulouse, à Agen, à Angoulême, où en l'entendant dans la carte, n'est pas encore aussi serrée qu'elle est pour nous aujourd'hui, elle est extrêmement serrée. Et donc, cependant, Guez de Balzac doit aller à Paris, parce que, en effet, c'est le lieu où les tons nouveaux sont en train de se donner, et un des lieux très importants, c'est le salon de Madame de Rambouillet. Donc, le salon de Madame Rambouillet, c'est un lieu très important des années 1625-1650. C'est le salon des précieuses, hein, par excellence. Alors, par précieuses, on ne veut pas dire des dames ridicules. On veut dire des dames, la marquise de Rambouillet, sa fille, Julie, qui sont cultivées, très cultivées, qui réunissent autour d'elles un certain nombre d'aristocrates, avec des gens qui sont des bourgeois ou des bourgeois en train de devenir aristocrates, comme Balzac, Voiture ou des gens de ce genre, avec comme idée de civiliser un petit peu les guerriers grâce à ce qu'on appelle, nous, la littérature, grâce aux bonnes mœurs. Donc, on va leur apprendre à faire l'amour, c'est-à-dire à dire l'amour, en vérité. On va leur apprendre à converser, on va les apprendre à se civiliser et à ne pas être des brutes qui vont de leur château au champ de bataille, les champs de bataille au château, en culbutant les femmes, quand ils arrêtent de faire la guerre. Enfin, en gros, quelque chose comme ça. Et donc, ça va être le salon de Madame Rambouillet, un des grands lieux de civilisation et un des grands lieux d'invention de ce qu'on appelle plus tard, mais c'est pas le mot à l'époque, de la littérature française. C'est pas le mot à l'époque parce que le mot littérature, s'il existe à l'époque, veut dire quelque chose comme la culture générale, disons qu'on peut dire littéraire, mais pas ce que nous appelons littérature. La zone que nous appelons littérature, c'est les belles lettres, mais c'est pas tout à fait la même chose que ce que nous appelons littérature. Donc, pour qu'il y ait littérature pour nous, il faut qu'il y ait des écrivains qui publient des livres avec l'intention d'être reconnus comme tels en tant qu'ils sont ce qu'ils sont eux-mêmes, un lectorat assez abondant, avec des lecteurs individuels, et puis l'impression que les livres n'ont pas d'autre fonction que la délectation et l'exaltation, on peut dire, des lecteurs. On n'est pas du côté de l'art oratoire. Alors, ce genre de choses se constitue en langue française assez largement autour de l'hôtel de Rambouillet, à la fois parce que la conversation est dans une langue très élevée, mais aussi parce qu'on échange des lettres, et c'est là-dedans que Guez de Balzac va jouer un rôle très important. Alors, Guez de Balzac est connu au XVIIe siècle, ce qui va le rendre célèbre, ce sont ses lettres. Alors, apparemment, des lettres, c'est bon, rien de plus banal que des lettres, pour qu'il y ait des lettres, il faut qu'il y ait un système, d'abord, d'échange de lettres, relativement commode, relativement peu cher. Pour qu'il y ait un système d'échange de lettres qui fonctionne relativement, il faut une certaine centralisation, et il faut, plus tard, qu'il y ait une poste, et éventuellement des timbres postes, voilà. Alors, c'est progressivement au cours du XVIIe siècle qu'en France se constitue, et les rois vont jouer un rôle assez important là-dedans, un système tel que Madame de Sévigné, bon évidemment qui est riche, peut envoyer des lettres privées en relative sécurité, c'est-à-dire sans être systématiquement ouverte par la censure et avec une chance que ça arrive, des lettres à sa fille. Donc, évidemment, pour cela, il faut un certain nombre de conditions. Bon, il faut d'abord un moyen, enfin, il faut d'abord du papier, hein, voilà, un système, on va pas envoyer des blocs de marbre trop lourds, enfin, voilà, bon, il faut un matériau pas trop cher, hein, le papier qui peut se perdre éventuellement, on peut le remplacer. Il faut qu'il y ait une relative sécurité des systèmes par chevaux, par voies d'eau, par divers systèmes. Il faut qu'il y ait une certaine administration qui fonctionne à peu près. Et donc, pour qu'il y ait des lettres, en fait, il faut qu'il y ait l'État, hein, d'une façon ou d'une autre, voilà, un système comme ça. Mais bon, évidemment, pour que les lettres fonctionnent, il faut aussi de l'argent, mais il faut aussi des gens qui savent écrire, un minimum, hein, voilà. Alors, l'idée de la particularité de Balzac, c'est qu'il va se mettre à écrire des lettres qui vont être des lettres en français. Il y a au XVIe siècle et avant un certain nombre de gens qui s'écrivent des lettres entre eux. Bon, par exemple, Erasme a une vaste correspondance, mais des lettres essentiellement en latin. Écrire des lettres en latin, ça veut dire écrire des lettres, bon, pour l'essentiel, entre des hommes, bon, il y a des femmes qui lisent et qui écrivent le latin, mais il y en a relativement peu, donc entre les hommes, et d'autre part, bon, entre un certain type d'hommes, parce que s'il y a peu de gens qui font du latin aujourd'hui, ben, au XVIIe siècle aussi, par rapport à la masse de la population, très peu de gens faisaient le latin, et surtout très peu de gens étaient capables d'écrire des lettres en latin et de les recopier en latin. Il y a peut-être plus de gens qui sont bons latinistes en nombre aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, hein, voilà. Simplement, dans la partie des clercs, les hommes d'église, la partie des hommes de loi, la partie, disons, des professeurs, mais ils n'étaient pas très nombreux, tous ces gens-là écrivaient, effectivement, et lisaient en latin. Donc, la lettre en latin était essentiellement masculine, appartenait à des hommes qui étaient liés aux pouvoirs, hein, divers et variés qui étaient dedans, et puis c'était des lettres qui, bon, parce que c'est pas la langue naturelle, le latin, pouvaient assez facilement être des lettres à caractère un peu officiel. Si on passe aux lettres en français, évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui parlent le français que le latin, ou l'espagnol, hein, pareil, ou l'italien, le toscan ou autre. Il y a évidemment les femmes sont beaucoup plus accessibles parce que, en effet, voilà. Et puis, évidemment, comme c'est ma langue naturelle, le français, pour Balzac ou autre, il sera peut-être plus facile de dire des choses ayant trait à l'intime et autre que dans une langue qui est toujours un peu drapée de, avec des colonnes, avec le spectre de Cicéron qui est un peu par derrière. Et donc, le français autorise des communications un peu différentes. Mais c'est une relative nouveauté que d'écrire des lettres en latin. Et ça sera ce pourquoi, des lettres en français, ça sera ce pourquoi Guès de Balzac va apparaître comme un élément important dans la littérature française. Il va écrire aux gens qui sont dans le salon, aux gens qui sont liés à ce salon de Madame de Rambouillet, aux amis des amis des amis. Donc il y a à peu près 300 personnes qui tournent autour, qui sont les gens qui sont les correspondants de Guès de Balzac, qui sont soit des gens de pouvoir, hein, il y a quelques lettres à Richelieu par exemple, soit des intellectuels, bon, Descartes ou bien d'autres, soit des femmes, soit des nobles, soit le cardinal de la Valette, soit son successeur, l'archevêque de Toulouse qui lui succède, un certain nombre de lettres en français. Alors, ces lettres en français, elles vont avoir deux aspects. Bon, outre le fait qu'elles sont en français, d'une part, ce sont des lettres qui vont être éloquentes. Alors, Guès de Balzac, en effet, est élève en latin, il connaît bien l'éloquence jésuite, etc. Il est passé par Rome, il est un grand défenseur de l'art oratoire. De l'art oratoire tel que l'art oratoire pouvait se prononcer, vous savez, dans les tribunaux, éventuellement dans les églises, depuis l'Antiquité. Simplement, il signale que cet oratoire qui permet de parler devant un public, maintenant, on peut peut-être l'imaginer comme une sorte d'art oratoire par écrit, à destination non pas nécessairement d'un grand public, mais d'un proche, de quelqu'un d'immédiat. Et que donc, il y aurait un grand intérêt à écrire des lettres qui eussent la qualité de l'art oratoire de l'Antiquité, mais en français. Et cependant, ça ne peut pas être tout à fait de l'art oratoire, parce que si je m'adresse à une dame, si je m'adresse à un ami pour lui parler de mon mal de dos ou quelque chose de ce genre, je ne pourrais pas tout à fait le faire comme le faisait Quintilien ou tel autre orateur de l'Antiquité. Donc je vais devoir inventer un style moyen, qui ne sera ni ampoulé, ni trop sec, qui ne sera ni asiatique, ni trop sec, et qu'on le définit souvent comme un style attique, un style moyen. Alors, Guès de Balzac est l'inventeur, au XVIIe siècle, des lettres très nombreuses, en français, et c'est tellement important qu'effectivement, il va être un modèle pour les lettres en français, et que comme il va être un modèle, comme il sera le best des lettres en français dans les années 1624 et dans les années suivantes, il va susciter des jalousies considérables, des condamnations terribles. Alors, je vous lis pour vous donner une petite idée de lettres de Guès de Balzac en français, une lettre parmi des quantités d'autres qu'il écrit et qui donc date de 1624. Elle fait partie des premières lettres de Guès de Balzac écrites en français, publiées en 1624. C'est son premier livre, c'est lui qui le lance véritablement. Ces lettres fonctionnent comme un modèle. Alors il faut se dire que c'est l'art épistolaire en français, c'est une nouveauté. C'est comme le mail pour nous, c'est comme le texto, c'est quelque chose qui vient de sortir. C'est récent, hein, faire des lettres en français. Il est complètement à la mode. Hein, voilà, c'est un homme du temps. Voilà. Il y a quelqu'un hier qui disait que l'homme de son pays, je crois que c'est Fabius, c'est aussi l'homme de son temps. Et bien à ce moment-là, Guès de Balzac est l'homme de son temps. Alors voilà une lettre, la seule qui est dans ce manuel de littérature française, qui est adressée donc au cardinal de la... qui est ordonné, au cardinal de la Valette, donc, qui a été archevêque de Toulouse, on est en 1621 pour la lettre et en 1624 pour la publication. Et donc, il évoque évidemment les problèmes assez simples d'une sciatique. Au XVIIe siècle aussi, on a des sciatiques, mais c'est une chose assez nouvelle que de parler d'une sciatique en français. Et dans un français qui n'est pas un français un peu archéologique, un peu bizarre, comme le français de Montaigne ou autre, mais un français, vous allez voir, qui ressemble à notre français. Hein, Balzac est un inventeur de la langue française. Monseigneur, ni dans les déserts de l'Afrique, ni dans les abîmes de la mer, il n'y eut jamais un si furieux monstre que la sciatique. Et si les tyrans, dont la mémoire nous est odieuse, avaient eu de tels instruments de leur cruauté, c'eût été la sciatique que les martyrs eussent endurée pour la religion et non pas le feu et les morsures des bêtes. À chaque pointe qu'elle donne, elle porte un pauvre malade sur les bornes de l'autre monde et lui fait toucher sensiblement les extrémités de sa vie. Et certes, pour la supporter longtemps, il faudrait une plus grande vertu que la patience et d'autres forces que celles des hommes. À la fin, Dieu m'a envoyé quelques relâches après avoir essuyé une infinité de remèdes, dont les uns aigrissaient mon mal et les autres ne le soulageaient pas. Maintenant que la violence de la douleur cesse, je commence à jouir de ce repos que la lassitude et la faiblesse apportent aux corps qui ont été travaillés. Et quoique je sois en un état de santé beaucoup moins parfait que ne sont ceux qui ne se portent bien, toutefois, le mesurant par la proximité du mal que j'ai eu et la comparaison des peines que j'ai souffertes, je me loue bien fort de ma fortune présente, et je ne suis pas si hardi que j'ose encore me plaindre de la grande débilité qui m'est demeurée. Il est vrai pourtant que je n'ai plus de jambes que par bienséance, et que si je voulais entreprendre de cheminer, j'aurais autant de peine d'aller d'un bout de ma chambre à l'autre que s'il fallait passer des montagnes à traverser des rivières par les chemins. Que c'est merveilleusement dit. Voilà une magnifique lettre en français sur un problème qui nous concerne toujours, l'asiatique. Et donc, c'est un des premiers écrivains français à écrire en français à un monsieur qui existe vraiment, qui est son protecteur, qui est le cardinal de La Valette, une lettre dans laquelle il décrit tranquillement, alors on le voit bien, avec de la rhétorique, hein, qui vient de l'Antiquité, avec des formules pour nous un peu ampoulées, mais à décrire assez précisément et avec humour ce mal que nous appelons toujours l'asiatique. Et nous n'avons pas besoin de notes de bas de page pour comprendre de quoi il parle. C'est-à-dire que chacune des phrases nous éclaire, le vocabulaire nous éclaire. On voit que si je prends un texte de Montaigne, simplement de 1580, c'est-à-dire 40 ans plus tôt, moi-même et mes étudiants, nous avons besoin de notes de bas de page parce qu'il y a constamment des mots que nous ne comprenons pas, des tours de syntaxe que nous ne comprenons pas. Et là, brusquement, avec Dégès de Balzac, comme avec Malherbe, qui est son contemporain exact, on se dit, mais c'est la langue française. C'est la langue française qui est la nôtre, à peu près, même s'il y a quelques tours qui sont par là. Et sans aucune difficulté, on lit Dégès de Balzac. Alors, c'est la première chose qui a été importante dans Dégès de Balzac. Brusquement, en 1624, il a à peu près 30 ans, il fait paraître un recueil de lettres, qui sont toutes un peu de ce type, qui sont adressées à des gens vivants, des gens du temps, comme le cardinal de La Valette ou bien d'autres, qui parlent des sujets les plus divers. Qu'un homme qui a à peu près 30 ans, dans les années du début du règne de Richelieu, peut connaître, hein, véritablement. Voilà ce genre de problème. Et donc, immédiatement, il devient comme l'inventeur de la prose française. Quelqu'un qui, comme Malherbe, vous savez, enfin, Malherbe vint, et le premier en France, c'est Boileau qui va dire tout ça, on va dire enfin Balzac vint, et le premier en France, non pas fit sentir en ses vers une juste cadence, mais fit sentir en sa prose, je ne sais pas quoi, hein, mais en tout cas, la langue française telle que nous la parlons véritablement. Alors ça, c'est une date très importante, 1624, la publication des lettres de Dégès de Balzac, c'est les premières pages d'une prose sensible dans une langue française qui semble être celle que nous continuons à parler. On la voit claire, un peu ampoulée pour nous, mais énergique, efficace, capable de parler du corps, l'asiatique véritablement, voilà quelque chose comme un événement. Et vraiment, c'est une date dans l'histoire de la langue française et dans l'histoire de la littérature française. Alors, de ce point de vue-là, Dégès de Balzac mériterait plus de pages qu'une seule page dans un manuel de littérature française et sans doute beaucoup d'autres choses, parce qu'en effet, l'asiatique, bon, c'est un problème que nous connaissons, et la langue française aussi. Alors, évidemment, à peine ce livre est-il paru que le père Garras surgit. Alors le père Garras, pour ceux qui ne le connaissent pas, tant mieux. Pour les autres, ils savent que le père Garras est terrible. Le père Garras est terrible. Le père Garras, c'est lui, le grand accusateur de Théophile de Viau. Le père Garras est terriblement intelligent. Il passe son temps à lire les poèmes de Théophile de Viau et à trouver des allusions impies, et Dieu sait s'il en trouve. Et parfois, il a terriblement raison, d'accord. Le père Garras ne rigole pas. Alors, le père Garras profite du fait qu'au début du règne de Louis XIII, on est en 1624, relativement au début, le roi est, bon, la situation est un peu difficile, parce qu'il y a sa mère, parce qu'il y a encore les affaires des guerres de religion, il va y avoir la Rochelle à prendre, enfin, on sait un peu tout ça, Saint-Afrique, les batailles du côté de Saint-Antonin-le-Val, etc. avec les protestants, etc. Donc le système n'est pas vraiment en place, et puis le roi précédent a été assassiné, enfin voilà. Donc comment on fait un petit peu? Et donc il y a un moment où le père Garras se dit, il est bon de pouvoir attaquer effectivement un certain nombre de gens sous le nom de libertin. Libertin veut dire, certes des gens qui s'occupent un peu trop de sexe, mais c'est pas le club d'Agde, hein, voilà, c'est pas le centre naturiste, hein, c'est plutôt des gens qui sont suspectés de ne pas être en accord avec l'Église catholique, et donc d'avoir des positions hérétiques, d'être matérialistes. On a tué en 1619 Vanini à Toulouse, voilà, des gens qui ont mélangé des déviances sexuelles, des déviances doctrinales et autres. Donc c'est assez confus ce qu'on appelle libertin, mais ce sont des gens pas bien, hein, voilà, de même que les sorcières sont elles des femmes pas bien. Et donc immédiatement le père Garras va accuser Balzac de libertinage. Alors d'un côté, il a pas tout à fait tort, parce qu'en effet Garras sent bien que Balzac Ça ressemble à l'homosexualité, l'amitié avec Théophile Leviot, plus que l'amitié. Et d'autre part, il accuse Balzac de vanité, d'orgueil. Parce que vous comprenez, parler de sa sciatique et d'autres trucs de ce genre, et dire qu'on a mal, et dire qu'on aimerait bien se guérir, etc., ça, c'est un signe d'orgueil, de vanité. Parce que du point de vue d'un catholique intransigeant, on doit presque se réjouir d'avoir mal au dos. Parce que c'est éventuellement le chemin du paradis. Et en tout cas, on ne doit pas passer des pages et des pages à expliquer au cardinal de la Valette, qui normalement a autre chose à faire, enfin ça bien sûr, qu'on a mal au dos, qu'on a des problèmes de sciatique. Et donc, Balzac est attaqué immédiatement par le père Garas et il prend les choses, il n'est pas très content. Il n'est pas très content de cette chose-là. Mais il va y avoir une deuxième édition de ses lettres qui, en dépit du père Garas, sont un succès. Et donc, autour de 1628, il va y avoir une deuxième édition de ses lettres avec une dédicace à Richelieu. Et ceci est important, on va s'approcher peu à peu du poème en latin. Dédicace à Richelieu, qui à ce moment-là est le premier ministre puissant, véritablement, du système. Alors, la deuxième édition des lettres ne plaît pas du tout. Alors, le père Garas est un petit peu laissé de côté, mais il y a un autre type pire que le père Garas, c'est un feuillant, donc, vous savez, l'ordre des feuillants, il s'appelle Goulu. Alors, si vous rencontrez un type qui s'appelle Goulu et qui est un feuillant, il faut se méfier. Goulu est très méchant. Goulu n'est pas du tout content. Il est bien pire que Garas. Pas du tout content de Gaz de Balzac. Et là, il l'accuse alors, de tout, de libertinage, mais aussi de copier les anciens et les modernes. Donc, c'est un plagiaire. Alors, on sait bien que l'accusation de plagiaire est une accusation qui est récurrente dans l'histoire de la littérature française ou autre. Et c'est assez intéressant de voir que dans ces années-là, qui sont celles dans l'histoire de la littérature, de l'invention de la littérature, on accuse des types de plagiaire. Parce que ça veut dire quelque part que ce qui est important, c'est la nouveauté. La nouveauté. Alors, Pierre Goulu est très mécontent et, comment dire, Balzac le prend très mal. Être attaqué par Garas, ça passe encore. Oui, au passage, évidemment, Balzac, qui n'est pas une homme de moralité absolue, a écrit des lettres à Théophile Leviot pour l'expliquer qu'il ne le connaissait pas, qu'il était un affreux jojo. Théophile Leviot lui a répondu de manière très très énergique d'ailleurs. Enfin voilà, Balzac ne s'est pas comporté très bien avec Théophile Leviot, il ne l'a pas soutenu du tout. Il a vu que la chose était un peu dangereuse, donc je vais voir ailleurs. Voilà, et donc il a. Voilà, bon, on n'est pas obligé d'être un homme parfait, hein, voilà. Et donc Goulu, lui, donc, va attaquer ce brave Balzac en l'accusant de plagiat. Alors Balzac, à ce moment-là, va monter sur ses grands chevaux, puisque c'est ça. Je me retire à Angoulême, en Charente. Et donc, en 1627-1628, Balzac fait un coup extraordinaire. Au lieu de maintenir ses positions à l'hôtel de Rambouillet, à Paris, il va se retirer à Angoulême. Donc, c'est le premier d'une très longue série des écrivains qui décident de choisir l'exil, des écrivains, des penseurs ou autres. Bon, j'ai fait un film il y a quelques années sur un mathématicien qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui a décidé à un certain moment de quitter la communauté mathématique pour s'éloigner de la communauté mathématique et aller se retirer au bout du compte dans l'Ariège où il est mort. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'écrivains, en dehors des scientifiques, qui ont décidé à des moments divers, pour des raisons diverses, de s'arracher à l'endroit où ça se passe pour se retirer et porter ce que Lévi-Strauss appelle un regard éloigné sur l'actualité. Et à partir de là, effectivement, Gaz de Balzac va vivre essentiellement à Balzac, dans son domaine, à côté d'Angoulême, à partir duquel il va écrire des lettres et des lettres et rester en correspondance, évidemment, à écrire quant à lui sur avec les Parisiens. De sorte que quand l'Académie française va se créer quelques années plus tard, on ne pourra pas faire autrement que de le laisser Richelieu qui crée ça, on ne pourra pas faire autrement que de le mettre dedans. Et donc Balzac va se payer le luxe qu'a eu ensuite plus tard Robe Grillet, c'est-à-dire d'être à l'Académie française, mais à la première Académie française, tout à fait au début, et de ne jamais siéger. C'est la volupté absolue, hein, évidemment, pour Robe Grillet, même de mourir avant d'avoir à prononcer son discours. Donc, de ce point de vue-là, Balzac fait l'inverse de Giscard, qui est allé effectivement à l'Académie française et qui a siégé depuis longtemps, qui est très, très présent. Balzac est nommé, mais il n'y va pas, en réalité, ce qui l'empêche pas d'ailleurs de fonder un prix d'éloquence de l'Académie française depuis Angoulême. Hein, voilà à peu près la chose, à ses frais de 2000 livres, hein, je crois, à peu près, voilà la chose. Et donc, c'est un personnage qui va vivre retiré, tout en étant quelqu'un que l'on va voir et que l'on va admirer, respecter. Il va devenir le solitaire de la Charente. Alors c'est très très bon, on l'appelle le solitaire de la Charente. Alors, je vais vous lire par exemple un début d'un poème d'un type qui s'appelle Georges de Scudéry. Alors, Georges Scudéry, c'est un type très bien, enfin, c'est-à-dire, c'est un écrivain de la fin de la première moitié du XVIIe siècle. Il est surtout célèbre pour sa sœur, Mademoiselle de Scudéry. Alors, c'était un homme parfait, Scudéry, il avait un peu de talent, mais sa sœur en avait encore davantage, et comme, vous savez, c'est un peu l'histoire avec Colette, il s'est attribué les œuvres de sa sœur, enfin, voilà, assez tranquillement. Mais bon, ceci dit, il a fait ce qu'on faisait à l'époque assez régulièrement, c'est d'aller voir la maison de Balzac et d'écrire un poème sur la maison de Balzac. Comme plus tard, dans les années 70 à peu près, il était de bon ton de se rendre à la maison de Julien Gracq, vous savez, au bord de la Loire, c'est pas Chalonne-sur-Loire, j'ai oublié le nom précis, juste à côté. Et donc tout le monde allait se faire purifier au contact de Julien Gracq au bord de la Loire, et puis après on avait vu Julien Gracq, on avait vu la maison, voilà, il y a l'inspecteur général de l'éducation nationale qui s'en est pas encore remis 40 ans plus tard d'avoir serré la main de Julien Gracq au bord de cela, et c'était comme ça. Donc on va voir Monsieur de Balzac, Le Solitaire. Alors ça donne ceci. Alors vous allez voir, c'est de la poésie du XVIIe siècle, bien, avec donc Gloire de Balzac, et puis après Beauté de la maison, et vous allez voir. Description de la belle maison de Monsieur de Balzac. Cet astre lumineux qui presque à tous les mois jette des rayons d'or sur les champs angoumois, lui qui de sa splendeur éclatante et féconde est l'âme des beautés et la beauté du monde, lui qui brille en ses champs d'un éclat vif et pur où se mêlent alors le cinabre et l'azur, lui qui soir et matin pompeusement étale d'un trésor de couleurs la beauté sans égale, lui qui par ce mélange y charme tous les yeux. Bon, je vais pas vous en dire, il y en a comme ça 4 pages, jusqu'au moment où il arrive à décrire la maison de Balzac. Vous voyez, donc à l'époque on aime la louange, hein, quand on se fait louer au XVIIe siècle, c'est quand même bien, hein. Voilà, d'un seul coup, ça dure 40 vers ou 50 vers. Et enfin, on arrive à la maison, on est 4 pages plus loin, voilà. Et voilà ce qu'on nous dit de la maison. « Enfin, pour découvrir ce qu'on ne doit point taire, je cherche seulement l'illustre solitaire. » Vous voyez, bien avant Rousseau, il y a un illustre solitaire, c'est Balzac. L'illustre solitaire. « Le 3 fois grand Balzac, ce démon du savoir, que des bords d'Hélicon m'amuse va revoir. » C'est lui qui dans ces lieux conçoit ces grandes choses, plus riches que ses champs, plus belles que ses roses. C'est lui de qui le style a d'une autre pareille, parfait, plus lumineux que l'éclat du soleil. C'est lui dont le discours qui charme tout le monde a plus de pureté que d'en efforcer cette onde. Vous voyez, bon, il y a de la mauvaise poésie du XVIIe siècle, hein, ça a toujours existé. Georges Scudéry n'est pas un très grand poète, mais on voit bien la pose. Donc, je vais me rendre à Balzac, à côté d'Angoulême, pour voir le grand homme que tout le monde connaît, que nous avons tous oubliés, ou presque tous. Je vais me rendre voir Le Solitaire. Donc, cette figure de solitaire, c'est un beau sujet de thèse et de recherche dans l'histoire de la littérature. Il n'y a pas que Victor Hugo, il n'y a pas que Rousseau, il y a déjà Balzac, il y en a eu d'autres avant. Donc, je vais voir Le Solitaire. Et là, au contact du solitaire, je vais gagner en beauté, en morale, enfin, des choses de ce genre. Voilà la position de fascination. Alors, quand on est un solitaire à Angoulême, et qu'on se trouve autour de 1630, on est éventuellement en danger de devoir être récupéré. Alors, c'est une chose qui arrive parfois aux artistes, ça arrive toujours aux artistes, de la part des grands du moment. Alors, en 1630, effectivement, est au pouvoir un homme qui s'appelle le cardinal de Richelieu. Et le cardinal de Richelieu est très conscient de sa puissance, des effets. Il vient de prendre la ville de La Rochelle, donc tout va bien pour lui. Il règne véritablement avec Louis XIII. Il a non pas exterminé les protestants, mais il a les protestants largement sous contrôle. Il est en train de fonder l'État tel qu'il veut le fonder, donc il est vraiment là, vraiment au cœur du pouvoir. Et donc, il aimerait bien qu'on fasse un livre à la gloire du règne, et en particulier de lui-même. Mais pour faire un livre à la gloire de soi-même, il faut trouver deux choses. D'une part, un bon écrivain qui puisse faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, et si possible, un écrivain qui soit potentiellement légèrement dans l'opposition. Vous voyez, c'est un peu la technique de Sarkozy, avec tel ou tel de ses ministres au début. Essayez de trouver quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans mon camp, qui a un talent véritable et que je vais pouvoir récupérer pour mettre là. Et donc, il pense instantanément à Balzac, évidemment. Parce que Balzac est en effet considéré comme le meilleur prosateur peut-être de ces années 1630, l'inventeur de la prose française. Et ça convient très bien à l'homme qui va fonder l'Académie française, qui s'intéresse beaucoup à la littérature comme instrument de gloire de la France et de lui-même. Et d'autre part, comme Balzac était un allié de la famille d'Épernon, qu'il avait donné le sentiment qu'il était plutôt quelqu'un qui était peut-être un libertin potentiel, et d'autre part qu'il était lié aux grands, qui souvent étaient suspects de libertinage eux-mêmes aussi, donc c'était mettre au char de l'État, effectivement, et en particulier au char de Richelieu lui-même, si Balzac acceptait de faire un livre à la gloire du régime, d'avoir à la fois un très beau texte lié au char de l'État, qui illustrerait la langue française, et puis qui montrerait l'unité de la France, en essayant d'aller prendre quelqu'un qui était non pas dans l'opposition, parce que ce n'est pas les termes dans ce sens-là qu'il faut prendre, mais en tout cas pas quelqu'un soumis immédiatement au régime de Richelieu et de Louis XIII. Et donc, et commander effectivement à ce personnage, ce livre que je vous ai montré tout à l'heure et que j'ai perdu maintenant, qui s'appelle Le Prince. Et Le Prince, ça va être une catastrophe. Parce que Guest de Balzac va accepter de répondre à la commande et d'écrire un livre à la gloire de Louis XIII. Et il l'écrit en reprenant le titre de Machiavel, Le Prince. Et donc Machiavel, donc, auteur du siècle précédent, extrêmement célèbre, sur lequel toute la Renaissance a médité largement, et qui était un auteur, à bien des égards, repoussoir. À bien des égards, parce que dans Machiavel, on voit bien comment maintenir le pouvoir, on va dire, par tous les moyens. Mais le prince dont il doit être question ici, doit être un prince catholique, généreux, modèle, moderne, et surtout pas italien, français, bien entendu. Et donc, Guest de Balzac se met au boulot, et il a un programme, c'est de dire, voilà, Louis XIII est un grand prince, parce qu'évidemment, il a tordu le dos, le cou aux protestants, avec la prise de La Rochelle. Ça, on est d'accord, c'est très bien. Mais aussi, c'est un prince anti-parti dévot, hein, le fameux parti dévot qui va s'opposer à Molière un peu plus tard. Donc, c'est un prince catholique, mais ce n'est pas un prince dévot dans le pire des sens. Mais c'est un tellement grand prince qu'il n'a besoin de personne auprès de lui. Et oui, il n'a pas besoin de Richelieu. Et donc Richelieu est oublié dans le livre qui est commandé par Richelieu à la gloire du prince. Et donc c'est un magnifique livre qui présente un prince idéal qui n'a pas besoin de Premier ministre. Imaginez que c'est une commande du Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas très content. Il n'est vraiment pas très content de ce livre. Et donc, arrive évidemment une nouvelle polémique contre Balzac, non pas parce qu'il est libertin, mais parce qu'il est suspecté d'être un anti-Richelieu. Et donc, voilà le personnage qui, sans devenir un auteur maudit, se trouve à ce moment-là être un auteur, vous comprenez, un petit peu à la limite de la disgrâce. Alors, je vous conseille beaucoup de lire ce livre de Balzac qui s'appelle Le Prince, à la fois parce que c'est le seul qui est disponible, en même temps, parce que c'est un livre qui permet de comprendre vraiment ce que c'est qui se passe au cœur du XVIIe siècle français, et de voir une très très belle langue, et de voir comment peut se formuler, disons, là aussi, l'invention de la littérature. Alors la thèse, je perds un petit peu mes feuilles de papier, mais parce que des fois j'en ai un peu besoin, pour me retrouver sur un détail, parce que je ne... Voilà. La thèse du personnage qui présente le livre, c'est d'expliquer que Balzac, sans doute, n'a pas voulu clairement faire acte d'opposition. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est faire acte peut-être de littérature. Il a voulu faire un très beau discours à la gloire du prince, qui soit extrêmement équilibré de l'intérieur, mais il ne s'est pas rendu compte véritablement, on ne sait pas très bien, qu'il écrivait en fait un discours politique, véritablement. Et donc, il a fait une très belle œuvre, mais qui est une œuvre qui propose un prince idéal, qui n'est pas le prince réel, que Louis XIII incarnait avec Richelieu. Et donc Richelieu n'est vraiment pas très content. Et donc il se retrouve, à partir de 1632-1634, encore plus, un plus enfermé à Angoulême, avec une certaine opposition. Ça n'empêche pas d'être inscrit d'office à l'Académie française, parce qu'on ne peut rien faire, et donc il n'y siège pas. En 1636, il publie un second recueil de lettres, qui n'est guère accusé. Il publie en 1648, je passe un peu plus vite, un livre qui s'appelle Le Barbon, dans lequel il dénonce les pédants, parce qu'on l'accuse d'être un pédant. Et en particulier, il y a un personnage qui s'appelle Charles Sorel, qui écrit un livre qui s'appelle L'histoire de Francion, qui est un des grands romans de ces années-là, dans lequel on voit apparaître un pédant qui s'appelle Hortensius. Et tout le monde pense à l'époque, et c'est en partie vrai certainement, que Hortensius, ce n'est rien d'autre que Guest de Balzac lui-même. Guest de Balzac lui-même n'est pas content du tout de savoir qu'il est caricaturé dans le livre de Charles Sorel. Et puis, les années passent, il se convertit de plus en plus au catholicisme. Alors, c'est une des choses assez difficiles à comprendre dans le paysage où est Guest de Balzac et, en fait, le paysage des idées religieuses du temps. Bon, Guest de Balzac est accusé, on l'a vu, de libertinage autour de 1624 et puis de nouveau ensuite, une fois par le père Garas, une fois par les Feuillants, et il se retire en colère et ses fréquentations, ce sont des gens comme Descartes, en effet, le père Marin Mersenne et bien d'autres, ce n'est certainement pas un dévot et on le voit bien dedans. Ceci dit, Guès de Balzac est un anti-protestant, un partisan finalement de la répression qui est faite comme ça, et il se donne effectivement comme catholique véritablement. Et progressivement, il va se convertir au point d'écrire un livre qui nous amène au livre, au texte qui est publié dans le livre de Fermat, un livre qui s'appelle Socrate chrétien. Socrate chrétien, c'est une drôle de notion, c'est publié en 1652, 2 ans avant la mort de Guès de Balzac. C'est le dernier livre de Guès de Balzac. Alors qu'est-ce que c'est dedans? Il s'agit d'imaginer une figure moderne de Socrate, d'un Socrate qui aurait toutes les qualités de Socrate, c'est-à-dire qui serait un personnage, un sage à bien des égards, mais qui en plus serait un chrétien. Alors c'est une des grandes questions du début du XVIIe siècle. Comment peut-on penser le rapport entre la pensée antique et la pensée moderne? Bon, il y a d'un côté des gens comme Gassendi qui vont dire ce qu'il faut chercher, c'est une unité entre l'épicurisme, le matérialisme antique, et puis l'idée chrétienne de la charité. Des gens comme La Fontaine vont développer cette idée-là. Et puis l'autre idée, qui est celle en fait de Balzac, c'est de se dire on pourrait aller chercher du côté de Platon et de Socrate, donc pas du tout du côté matérialiste de l'Antiquité, mais du côté des idéalistes de l'Antiquité, quelque chose qu'on pourrait rattacher au christianisme dans des figures morales, positives et appuyées sur la science, qui est effectivement le Socrate chrétien. Alors ce texte-là, vraiment remarquable, que j'espère un jour voir réédité dans des livres de poche, est composé d'une série de discours dans lequel on voit apparaître une profession de foi chrétienne à l'intérieur d'une philosophie elle-même rationnelle, mais cependant une philosophie reliée au spiritualisme. Voilà à peu près la thématique. Et puis Guès de Balzac meurt en 1654, et vont paraître, après la mort de Guès de Balzac, dans les années 1660 et suivantes, de nouvelles lettres de Balzac, les entretiens de Balzac, l'Aristide de Balzac, les œuvres complètes de Balzac, et donc la bibliothèque des œuvres de Balzac va se publier dans les années 1658, 60, 62, 63, 64, avec réédition, de sorte que Guès de Balzac, juste au moment où Louis XIV arrive au pouvoir, est considéré en effet comme le grand écrivain de la génération précédente, vraiment classique, qui a survécu à ce qu'on appelle la querelle des lettres des années précédentes, dans lequel une nouvelle génération d'épistoliers, avec en particulier Voiture, était venue contester effectivement le texte de Balzac. Alors là, c'est dans ces années-là, certainement, que Fermat écrit ce poème en latin qu'on a regardé tout à l'heure, que je vous ai fait passer tout à l'heure, et qui est donc effectivement la dernière partie des œuvres de Samuel Fermat, éditant effectivement pour son père, en 1679, c'est Varia Opera Mathematica de son père, Pierre de Fermat. Et donc, à la fin, effectivement, il y a ce grand poème latin de Pierre de Fermat qui renvoie, on l'a vu, à Balzac. Alors, si je reviens dessus, donc la thèse de départ, c'est que le dernier mot des œuvres de Pierre de Fermat, tel que Samuel la publie, c'est Balzac. Balzac, un poème en latin, un poème qui répond à qui est un Christus Moriens. Alors, si je vais chercher dans les œuvres de Balzac, qui sont en effet des œuvres en français et en latin, je vais trouver, et je vous l'ai mis en copie, un Christus Nascens. Alors, je vous l'ai mis en copie, mais je vous l'ai tellement mis en copie que moi-même, je l'ai plus. Est-ce que je peux en récupérer un, voilà, par là? Voilà. Et donc, effectivement, dans les œuvres qui sont publiées après la mort de Balzac, c'est-à-dire en 1661-1662, effectivement, dans le livre 3, alors je lis le texte, Ioanni Ludovici Gesi Balzaci Carminum Liber Tertius, je vois apparaître, effectivement, c'est le livre 3 des chants de Guès de Balzac, de Jean-Louis Guès de Balzac, le voici. Et je vois apparaître Quédédéo. En effet, c'est le même titre qui était le titre qui se trouve dans le poème de Fermat, publié à la fin des œuvres complètes de Fermat. Quédédéo, en fait, c'est une citation latine qui vient de Virgile. À l'intérieur du chant 5 de l'Énéide de Virgile, il y a un combat. Donc, il y a Anchise, le père de Virgile, qui meurt. On est à Carthage. Et donc, on fait une série de combats pour les funérailles d'Anchise. Et parmi ces combats, il y en a un qui se fait avec une sorte de point américain, passant le nom latin, entre un vieux et un jeune. Et le jeune, évidemment, va gagner. Mais le vieux a vraiment la rage de gagner. Et au moment où le vieux va vraiment gagner, le jeune va vraiment gagner, le vieux a encore l'énergie, mais va se faire écrabouiller par le jeune. À ce moment-là, Aîné lui dit « Quédédéo, cède au Dieu ». Au Dieu qui n'est pas le Dieu des chrétiens, mais ce Dieu qui est le Dieu aussi du temps qui passe. De toute façon, renonce parce que tu es trop vieux. Voilà, je vous passe de lire le texte de Virgile en latin. Et donc, c'est une formule Quédédéo, qu'on retrouve, qui est d'abord une formule de Virgile, qu'ensuite les exorcistes récupèrent quand il y a le diable en vous et que vous appelez un exorciste au XVIe siècle, volontiers il va vous dire Quédédéo, il va dire au diable cède à Dieu, hein, voilà l'idée, cède à Dieu et file en dehors du corps qui est là. Et donc Quédédéo est une formulation latine qui vient de l'Antiquité, donc païenne, et qui est, disons, christianisée à travers l'histoire du christianisme et récupérée par Balzac puis par Fermat, ensuite. Et donc, on voit bien qu'on est dans un paysage de culture. Cède à Dieu, d'accord, soit Siwe, soit Christus Victor, soit le Christ Victor. Et puis, vous avez ensuite un deuxième poème qui s'appelle Christus Nascens. Et vous comprenez bien que le poème de Fermat, Christus Moriens, est la réponse au Christus Nascens, mais aussi au Quédédéo du Christus Victor. Donc, Fermat répond, quand il écrit son texte, à deux textes de Balzac en même temps, Christus Nascens, Christus Moriens, Quédédéo, Quédédéo. Donc, Fermat répond à cet ensemble de textes de Guest de Balzac qui sont ici présents, répond, suit effectivement la chose. Alors, le texte de Balzac lui-même en latin, qui porte allusion effectivement à Virgile par derrière, donc on est vraiment les chrétiens qui ont lu Virgile, bien sûr, parce qu'évidemment, tout le monde connaît normalement par cœur son Virgile quand on s'appelle quelqu'un comme Balzac ou les gens auxquels il écrit maintenant. Maintenant, il arrive parfois que même mes cagneux ne connaissent pas par cœur, j'en vois quelques-uns, le chant 5 de l'Énéide, ce dont je suis désolé, hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive parfois, voilà. C'est des erreurs comme ça, voilà. Mais Balzac, évidemment, et ses lecteurs connaissent ça très bien. Et donc, le poème est lui-même dédié ad illustrissimum et eruditissimum praeslem, Antonium Godelium. Alors, Antoine Godeau. Antoine Godeau, c'est un type qu'on a un peu oublié lui aussi. Voilà, c'était un évêque de Grasse et puis l'évêque de Vence. Donc, on est du côté de la Provence. Par là, il a fini par être évêque de Vence. Alors, c'est un type très important à la fois de l'Église du XVIIe siècle, de la première moitié du XVIIe siècle, mais c'est aussi un poète, auteur de poètes en français et auteur de poètes en latin, très nombreux, tellement nombreux que si on regarde les livres d'un des auteurs que j'aime le mieux, La Fontaine, qui a composé assez tard dans sa vie le recueil des poésies qui s'appelle Poésies chrétiennes et diverses, dans lequel il a mis des poèmes à lui et des poèmes d'auteurs chrétiens, un poème sur cinq est un poème de Godeau. C'est vraiment très présent. Hein, voilà. Godeau est un type extrêmement connu au XVIIe siècle, pour ses poèmes français et pour ses poèmes latins. Et donc, il est tellement connu que Balzac lui-même, à la fin de son Socrate chrétien, a mis 4 ou 5 poèmes de Godeau. Donc, on est dans une communauté de gens qui sont catholiques, qui écrivent en français et qui écrivent en latin de la poésie. Alors là, je voudrais insister un petit peu sur ce point du latin. Parce qu'en effet, bon, quand on fait la littérature française du XVIIe siècle, ou du XVIe siècle, pour nous, la littérature française de l'époque, c'est la littérature en langue française, bien entendu. Et on oublie presque toujours que des gens comme Godeau, que des gens comme Racine, que des gens comme Corneille, que des gens comme Théophile de Viau, comme des gens comme Fermat et bien d'autres, ont à côté une vaste œuvre latine, composée soit de lettres qu'ils échangent, parce que pour communiquer à travers l'Europe, le plus simple, c'est de communiquer en latin, avec un anglais, avec un allemand, avec un italien ou autre, soit simplement des poèmes en latin que l'on met à côté. Et là, actuellement, donc, il y a dans la recherche universitaire, on forme des étudiants et des chercheurs pour des colloques et des articles sur la littérature néo-latine, qui peut être une littérature, disons, du XVIe ou même de la fin du Moyen-Âge, et puis une masse considérable de littérature du XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Vous savez que Jean Jaurès a fait sa thèse en latin. Et donc jusqu'au XIXe siècle, un grand nombre d'intellectuels en Europe, en France en particulier, étaient capables d'écrire en latin. Et vous savez qu'Arthur Rimbaud, par exemple, a eu des prix de vers latin avant d'écrire les poèmes véritablement d'Arthur Rimbaud, et qu'il écrit un poème sur Abdelkader en latin. Et donc, il a un prix de vers latin, ce que moi-même ou mes étudiants, sans doute, auraient quelques difficultés à faire. Un poème, je ne sais pas, quelques héros arabes modernes en latin. Bon, ça n'intéresserait d'ailleurs pas beaucoup de héros arabes, je pense, non plus. Enfin, voilà, bon. Très bien, mais à l'époque, peut-être oui. Et donc, on a là, dans le texte de Fermat, que je vous ai montré tout à l'heure, réponse au texte de Balzac, quelque chose qui est un enchaînement, disons, de ce qu'on appelle la République des lettres. Fermat répond, on ne sait pas exactement quand, au texte de Balzac qu'il a lu, on ne sait pas exactement comment, Ce texte de Balzac prolonge le texte des textes de Godot, qui eux-mêmes, ensemble, citent Virgile. Donc on est dans un contexte triple, on va dire. D'un côté, la République des Lettres, des gens qui se connaissent entre eux, directement ou indirectement, ils ont entendu parler les uns des autres, ça communique, bien entendu. De premier contexte. Deuxième contexte, ils parlent évidemment latin. Deuxième chose, ils ont à l'arrière tous les références latines, Virgile, le latin, les citations de Virgile, et dans le poème de Fermat, en plus des citations de Lucrèce, pour faire bon poids à bonne mesure, qui a été découvert il n'y a pas si longtemps que cela, à ce moment-là. Et enfin, évidemment, ils sont chrétiens, et spécifiquement dans cette zone-là, ils sont catholiques. Et évidemment, ils ont un plaisir à échanger entre eux, ou à se renvoyer entre eux, un certain nombre de textes. Alors, de quoi est-il question dans le poème de Fermat, et aussi dans le poème de Guest de Balzac? Il est question de l'infelix ratio. Et vous voyez, si vous regardez un petit peu dans le texte de je ne vais pas le lire en entier en latin, parce que voilà, on y sera encore demain matin, et puis je vais vous épargner un petit texte latin. « Quae deo pridem indomito sub pectore luctans ?» Donc, « cède à Dieu, infelix ratio, malheureuse raison, te lamentant à l'intérieur d'un cœur, voilà, depuis longtemps. Cède à Dieu, cède à la foi divine, voilà. » Et donc, il s'agit, pour la raison, de céder à Dieu, et si vous promenez un peu l'intérieur du texte, si vous allez vers plus loin, vous allez trouver « infelix et iniqua toi ratio arbitri fortis », vous retrouvez encore cette malheureuse raison qui est elle-même inégale. Et si je vais voir le Christus Nascens, je m'aperçois effectivement que ce poème, qui est aussi dédié à la Vierge, m'invite véritablement à me trouver du côté de l'amour, à renoncer effectivement à la raison, plutôt à voir les limites de la raison. Et bien sûr, si je regarde le texte que vous avez sous les yeux de Fermat, vous voyez aussi qu'il est question de l'infelix ratio. Pareil, la raison est puissante. Alors, ceci est intéressant parce que on est dans le XVIIe siècle, et dans le XVIIe siècle, on a coutume de dire que c'est le siècle de la raison. C'est effectivement 1636, c'est Descartes avec le discours de la méthode, c'est la philosophie de Descartes, et en effet, ensuite vont procéder tous les rationalismes qui vont procéder de cette phrase célèbre du discours de la méthode, il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et donc, en effet, il y a dans le XVIIe siècle un élan très fort qui est caractérisé par Descartes en particulier, du côté de la raison comme très forte. Et cependant, il y a un débat, c'est est-ce que la raison doit être première, est-ce qu'elle doit être rejetée complètement, ou est-ce qu'elle doit trouver sa place à l'intérieur de l'ordre, qu'on pourrait dire, de l'ordre des raisons. Et ça sera la position, en fait, d'un Pascal. Vous savez que Pascal va être un grand rationaliste, un grand mathématicien, un grand physicien, et qu'ensuite il va se convertir de manière radicale. Il a toujours été catholique, mais il est catholique d'une autre manière lorsqu'il répond à Fermat qui lui propose de le rencontrer quelque part entre Toulouse et Clermont-Ferrand, qui ne se soucie pas plus que du jeu de quilles de la géométrie, et qu'il a trouvé des choses plus importantes. Ces choses plus importantes, c'est les choses de la véritable révélation. Alors, du côté de gens comme Fermat, qui n'est pas un mystique, du côté de Balzac, qui n'est pas un mystique, même s'il termine dans un couvent à Angoulême et s'il donne l'essentiel de sa fortune à des ordres religieux. Ce ne sont pas des mystiques, véritablement. Pascal refuse la rencontre aimable que lui propose Fermat. Évidemment, pour eux, cependant, dire que la raison est effectivement ce qui organise la totalité du monde et que par la raison, on peut diriger toute notre vie et, de quelque manière, insupportable d'un point de vue d'un catholique. Parce qu'en effet, si tout est soumis à la raison, et si la raison est absolument félix, bien entendu, si la raison est absolument heureuse, et si l'amour, au sens chrétien du terme, ne vient pas s'introduire, à ce moment-là, c'est la révélation chrétienne qui tombe tout entière. Et donc, on comprend bien le débat qui porte sur Descartes. Est-ce que Descartes est un catholique ou est-ce qu'il n'est pas un porteur d'un libertinage profond? Le débat n'est toujours pas tout à fait tranché chez les philosophes. Probablement, Descartes est en réalité un véritable catholique, mais avec quelques points d'interrogation, ceci ou cela. Et donc, pour, effectivement, Balzac, il est important de rappeler que s'il est dans un paysage rationaliste, effectivement, il est important de rappeler qu'il est catholique, et donc, en effet, que infelix ratio. Mais maintenant, même chose pour Fermat. Fermat est catholique, quand bien même, évidemment, il siège à la Chambre des Lédites, on vous parlera tout à l'heure, à Castres. Il est vraiment catholique, bien entendu. Mais plus encore, pour son fils, Samuel. Quand en 1679, et je vais à peu près terminer là-dessus, il publie le livre qu'on a vu tout à l'heure et qui vous a permis de voir le théorème de Fermat briller à vos yeux et le visage de Fermat. Quand il publie le livre, lui, dans un contexte qui n'est plus celui des années 1650 par là, dans lequel son père écrit, on va dire, pour lui-même, avec ses amis, pour un échange épistolaire entre lettrés, un certain nombre de textes, dont ce texte-là. Lui, il est en 1679-1678, quand il prend sans doute la décision de publier le livre, dans un contexte de renouveau catholique d'État très puissant, les quelques années avant la fermeture, enfin l'abolition de l'édit de Nantes, dans une remontée catholique très puissante, sous l'influence de ce qui va être Madame de Maintenon et la suite, à l'intérieur du régime de Louis XIV, mais aussi à Toulouse. On est dans une ville catholique, très catholique. Et donc les éditeurs de Fermat vont être Bosc et autres que je citais tout à l'heure, tous les deux des éditeurs catholiques, très catholiques, hein, voilà, liés aux jésuites véritablement, et même pour l'un d'entre eux, un peu trop peut-être dans les années 1680 et suivantes. Très bien. Et donc à l'intérieur de ce monument, qui est l'œuvre que Fermat fait, c'est-à-dire Samuel Fermat, à la gloire de son père, les opéras, les varia, opéra mathematica. Il est important, un, d'avoir une dédicace au cardinal Fürstenberg, donc allemand, dont on a parlé tout à l'heure. Il est important d'avoir la gravure qui représente le père. Il est important d'avoir les œuvres mathématiques en effet variées. Il est important d'avoir, effectivement, des lettres qu'il écrit à Pascal, à Descartes et à quelques autres. À montrer donc que Fermat est un personnage qui a une ampleur européenne. Mais il est important aussi de montrer, un, qu'il écrit, qu'il sait écrire un poème en latin, parce que là, évidemment, c'est la dignité de la République des Lettres. Dans le Journal des Savants, on dit qu'il écrit des poèmes en latin, mais on en montre un. Et que non seulement, parmi les poèmes en latin, il y a toutes sortes de poèmes en latin, mais il y en a un qui compte, et c'est le seul qu'il met, c'est évidemment le Christus Moriens. Ça permet de dire, regardez, mon père est un catholique, et un catholique éloquent, poétique, qui est certes un rationaliste, mais un rationaliste qui se souvient bien, comme Balzac, de la prééminence de la foi catholique, donc c'est vraiment un catholique, et qui rend hommage à un personnage très intéressant qui est Balzac lui-même. Et donc, en quelque façon, le livre vient boucler en disant « Mon père, au sourire si doux, si on peut dire, Pierre de Fermat, est un homme qui procède dans le XVIIe siècle d'une tradition qui remonte à l'Antiquité, qui est Dédéo, Virgile, qui remonte au christianisme, Christus Moriens, bien entendu, et qui, par ailleurs, effectivement, est un auteur qui va être un auteur qui se situe dans la République des Lettres, dans laquelle Balzac est un personnage important. Alors maintenant, évidemment, le poème de Fermat s'appelle Christus Moriens. Le poème de Balzac s'appelle Christus Nascens. Donc, le Christ naissant et puis le Christ mourant. Donc, le Christ naissant et le Christ faible, bien entendu, et parce qu'il est faible dans ce moment-là, et on nous invite à contempler, c'est le poème, je ne vais pas vous le traduire en latin, donc le corps de ce Christ dans les bras de sa mère, et la raison doit s'humilier devant le visage de ce Christ, un peu comme dans tous les tableaux italiens, donc ce petit enfant Jésus, laissez venir à moi les petits enfants. Et donc c'est devant le visage de l'enfant que la raison elle-même doit s'humilier. Donc c'est une certaine idée de la poésie qui est très forte derrière. Mais Balzac ne contredit pas du tout, effectivement, Fermat ne contredit pas du tout Balzac. Il est d'accord avec lui, mais il met l'accent sur un autre aspect de la vie du Christ, un autre moment de faiblesse de la vie du Christ, mais qui est aussi un moment de force, qui est le moment où le Christ est en croix, effectivement, comme on l'entendra dans la Passion selon saint Matthieu, où effectivement, là, il est dans une faiblesse véritable, il fait quelque chose qui n'est pas compréhensible, disons si on peut dire, aux yeux de la raison, parce qu'accepter d'aller sur la croix alors qu'on pourrait bon, éviter cela, c'est un peu absurde, mais on voit bien qu'il y a le Socrate aussi hein, qui est derrière, mais plus radical en quelque manière, mais ce moment de la mort du Christ est aussi le moment du triomphe incompréhensible, c'est l'acte de la foi, la provenance de la foi, du Christ, puisqu'évidemment le Christ va ressusciter. Et donc on nous explique là que le véritable mythe, celui auquel il faut tenir compte, c'est pas les mythes de l'Antiquité païenne, mais c'est vraiment ce renversement aux yeux de la raison complète, de la raison, qui est la mort du Christ. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Donc, il y a un certain optimisme relatif de Balzac dans le Christus Nascens, et il y a comme une mélancolie qui apparaît dans le Christus Moriens de Fermat, mais qui est d'autant plus intéressante qu'elle est publiée dans un livre qui est un hommage au Père. Et donc, on voit bien la dernière page du livre qui est un hommage au Père, c'est l'image du Christ en train de mourir. Et donc, c'est le Fils qui montre le Christ en train de mourir dans le livre d'un homme qui est mort, qui est Fermat, et un homme qui est mort, qui dit dans ce livre qu'il est lui-même le fils de Balzac. Hein, vous avez vu tout à l'heure Infance, hein, qui apparaît là. Et donc, il y a une sorte de généalogie. Le Christ est mort, Balzac est mort, Fermat est mort, ils sont tous les pères et les fils des uns des autres, en quelque manière, voilà la chose. Et c'est le fils qui fait cet acte. Alors on a vraiment un acte de piété filiale, véritablement, qui est un acte remarquable. Hein, il est certain que Fermat, Samuel, a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup d'argent certainement pour faire ce livre, et que le fait de mettre à la fin un poème en latin, à un moment où on est en 1679, progressivement, c'est la victoire du français de plus en plus, de plus en plus. Et bien sûr, c'est un acte vraiment important, et donc c'est un acte de piété familiale, c'est un acte remarquable à l'intérieur de Toulouse, mais à l'intérieur de la France aussi, que de mettre ce poème en latin. Alors vous voyez, dans ces classiques détails, dont j'ai tenu à faire un poème en latin, non pas pour le lire en entier, parce que là, ça serait un cours de cagne, mais simplement pour voir effectivement l'importance de ce genre de choses et introduire ce qui nous importe maintenant, c'est-à-dire la présentation du livre Fermat, puisque donc on est passé de Balzac, le faux mais le vrai, à Balzac, et donc Balzac nous sert de guet, si on peut dire, joyeux, vers Fermat, que voici, et donc je vois que les auteurs du livre sont arrivés, et donc on passe à la partie 2 après quelques instants de pause. Voilà, Fermat après Balzac.